Vous écoutez, on lit pour vous.
À ce rythme, il faudra 58 ans pour concrétiser la réconciliation. Un texte de Nelly Guidici, paru le 14 février 2024 dans le Nunavoie, le journal des francophones du Nunavut. Les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation, CVR, auraient dû être concrétisés plus rapidement. C'est ce qu'affirme l'Institut Yellowhead dans un rapport publié en décembre 2023. Pour Eva Jewell et Ian Mosby, auteurs de ce rapport, face à l'extrême lenteur de la mise en place des appels à l'action, il est clair qu'un changement transformateur est nécessaire. Cependant, l'espoir de voir les communautés autochtones imposer ce changement demeure. Rendu public en 2015, le rapport final de la CVR a répertorié 94 appels à l'action destinés au gouvernement fédéral, aux gouvernements provinciaux et territoriaux, mais aussi à l'Église, aux médias ou encore aux institutions muséales. L'Institut Yellowhead, qui dépend de l'Université Toronto Metropolitan en Ontario, déplore que, depuis les 8 dernières années, la plupart des appels à l'action n'aient pas été concrétisés. Des obstacles bureaucratiques et un décalage flagrant entre les paroles et les actes du gouvernement fédéral sont notamment pointés du doigt. Depuis que nous observons chaque année le bilan du Canada sur ses prétendus progrès, nous avons maintenu la tension entre la promesse de réconciliation et la réalité, et nous sommes exaspérés par le profond fossé qui sépare les deux et frustré par l'écart entre l'inaction et les mythes fantastiques de bienveillance du Canada, peut-on lire dans le rapport de 24 pages. Entre 2015 et 2017, plusieurs déclarations du premier ministre Justin Trudeau avaient suscité l'espoir. Le 21 juin 2017, il a déclaré lors de la Journée nationale des Autochtones que le gouvernement est en train d'examiner toutes les lois et politiques fédérales qui touchent les Autochtones et nous mettons en œuvre progressivement les appels à l'action énoncés dans le rapport final de la Commission de vérité et réconciliation. Malgré cette volonté affichée, aucun appel n'a été concrétisé en 2020 et de nombreuses inégalités entre les peuples autochtones du Canada se sont aggravées en raison de la pandémie de COVID-19. Puis, dans les 3 semaines qui ont suivi la découverte des tombes non marquées d'enfants du pensionnat de Kamloops en Colombie-Britannique en 2021, 3 appels à l'action ont été réalisés. Nous avons rapidement compris que cette réponse rapide était une tentative de redorer le blason du Canada sur la scène médiatique internationale, pensent Eva Jewell et Ian Mosby. Aujourd'hui, seuls 13 des 94 appels à l'action ont été concrétisés. Si le Canada continue à ce rythme, il faudra encore 58 ans pour que les appels à l'action soient achevés. À cette cadence, les peuples autochtones devront attendre jusqu'en 2081 pour se réconcilier, indique le rapport. C'était « À ce rythme, il faudra 58 ans pour concrétiser la réconciliation », un texte de Nelly Guidici, paru le 14 février 2024 dans le Nunavoie, le journal des francophones du Nunavut.
Un guide de survie en contexte de travail d'équipe. Un texte d'Alain Gosselin paru le 16 avril 2024 dans La Presse. Question d'Isabelle, une lectrice. Au sein de mon organisation, on vit une crise interne. Certains problèmes avec la clientèle nous ont placés sans préavis dans une mauvaise posture. Même si tout est en voie d'être réglé, la situation a laissé des traces dans le climat à l'interne. On semble avoir perdu nos repères et on sent une démobilisation du personnel. Comment mettre un frein à cette spirale négative? Tout comme les individus, les organisations traversent aussi des moments difficiles. Acquisitions hostiles, contractions économiques, mauvaise presse, dirigeants impliqués dans un scandale, mauvaise performance financière. De tels moments laissent des traces au sein du personnel. Songez aux employés de la Société de l'assurance automobile du Québec, SAAQ, qui doivent faire face tous les jours à des clients mécontents alors qu'ils ont peu d'emprise sur les problèmes qui les affectent. Chaque situation est unique, mais toutes les organisations sont vulnérables aux crises. Cela peut survenir à n'importe quel moment. Ce qu'est une crise? Est-ce approprié pour Isabelle de qualifier de crise la situation vécue par son employeur? L'épisode de la COVID-19 peut nous aider à répondre à cette question. C'est un bon exemple de ce que représente une véritable crise. La situation difficile est déclenchée par un événement soudain, sans qu'on y soit préparé. Aussi, la sortie de crise n'apparaît pas très claire, ni la durée de la situation. On a le sentiment d'avoir peu de prise sur l'évolution de la situation. En conséquence, une crise présente un risque élevé d'engendrer un cercle vicieux. Une chose en amène une autre, fragilisant toujours davantage l'organisation. On perd de vue les priorités, on improvise, on change d'idée, on remet tout en question. Bref, on est en réaction aux événements qui se succèdent. Un contexte de crise génère de très fortes émotions. Exemple, colère, anxiété, confusion, entraînant souvent une perte de confiance et une baisse du niveau d'engagement. Ces émotions sont quasi impossibles à contrôler, car elles sont fortement sujettes aux rumeurs ou à l'évocation des pires scénarios. Mal canalisées, elles sont susceptibles de mener au départ des meilleurs, à des conflits, à une baisse de productivité et de créativité, ainsi qu'à des jeux politiques exacerbés. Si la crise perdure, il deviendra difficile de tenir la route, et les signes de détresse risquent d'apparaître. Les gens vont baisser les bras. Son employeur semble engagé dans cette voie. Voici quelques éléments utiles qui devraient être mis de l'avant. Petit guide de survie pour Isabelle. Être une voix positive. Vos collègues et vous êtes tous dans le même bateau, mais les gens réagissent différemment. Certains vont devenir des voix négatives et exprimer de la colère, de la frustration, du cynisme et blâmer sans nuance les dirigeants, alors que d'autres vont rester optimistes, prendre des initiatives et chercher à résoudre les problèmes. Le premier groupe tire l'organisation vers le bas, dans la spirale négative, tandis que le second facilite la transition vers la sortie de crise. Il apparaît important de se serrer les coudes plutôt que de privilégier le chacun pour soi. Exercer son leadership. Vous pouvez faire une réelle différence dans un contexte de crise en étant à l'écoute et en offrant votre aide. Votre gestionnaire risque de devenir un bouc émissaire des frustrations si on lui met tout ce qui va mal sur le dos. Faites preuve de tolérance à son égard et démontrez de l'empathie envers vos collègues. Prendre soin de soi pour être en mesure d'aider les autres. Il est important de rester attentif à la façon dont la situation vous affecte, ainsi que vos collègues. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide au besoin. Se recentrer sur les aspects sous votre contrôle peut aider à regagner un sentiment de maîtrise. Enfin, dans un contexte de crise, il est suggéré de réévaluer ses attentes à la baisse, que ce soit envers soi-même ou envers les autres. Pour son employeur, calmer les rumeurs. Dans une crise, on peut difficilement trop écouter et communiquer. Idéalement, le face-à-face est à privilégier. Les efforts de communication doivent respecter quelques principes. Continuité, pertinence, réalisme, transparence et modestie. Nous ne savons et ne contrôlons pas tout. Il est crucial de laisser le moins de place possible aux rumeurs. Pour cela, donnez-leur juste, accueillez les questions, répondez-y honnêtement sans fausses promesses. S'intéresser aux personnes. Il faut demeurer vigilant, car avec le temps, la détresse devrait se manifester. Il importe de rester connecté aux employés, de les écouter et de répondre à leurs préoccupations. Les groupes de soutien entre employés et les rencontres de groupe ont plus que jamais leur pertinence ou leur utilité. Être attentif aux talents. Un vieil adage dit que les gens sont comme le thé. Ils ne savent pas à quel point ils sont forts jusqu'au moment où ils se retrouvent dans l'eau chaude. En effet, une crise agit comme un révélateur du talent dans une organisation. Certains vont sortir de l'ombre, se démarquer d'une façon constructive, tandis que d'autres vont décevoir par leur attitude et leur comportement. Saisir l'occasion. Un autre adage dit qu'il ne faut jamais laisser une bonne crise se perdre. Comme une crise déstabilise l'organisation, c'est aussi un bon moment pour accélérer certains changements en cours, recentrer les priorités, tester de nouvelles façons d'organiser le travail, raffermir la culture par des gestes symboliques ou simplifier les façons de faire. Renforcer le rôle des leaders de proximité. En contexte de crise, ils sont observés et jugés plus que jamais. Ils peuvent donc faire une grande différence en donnant le ton et en faisant savoir aux employés que les prochains mois seront chaotiques et que leurs réactions sont normales. C'est leur rôle d'être présent et visible sur le terrain afin de les rassurer et de les soutenir. Rappeler que les crises passent et qu'il y aura un après donne de l'espoir. Une autre bonne façon de soutenir ses employés est de réduire le nombre de priorités et d'aligner les contributions vers des résultats bénéfiques à court terme, ce qui redonne un sentiment de contrôle. Enfin, il ne faut surtout pas oublier de célébrer les petites victoires. C'était un guide de survie en contexte de travail d'équipe, un texte d'Alain Gosselin paru le 16 avril 2024 dans La Presse.
La version qui n'intéresse personne d'Emmanuel Pierrot. Un texte d'Agnès Vigé, paru le 14 septembre 2023 dans L'Aurore boréale du Yukon. Le premier roman d'Emmanuel Pierrot, La version qui n'intéresse personne, aux éditions Le Quartanier, est sorti au Canada et en Europe récemment. Ceux ou celles qui ont croisé Emmanuel Pierrot au Yukon ont certainement été intrigués par cette jeune Québécoise qui noircissait constamment son carnet avec de la poésie. Citation: « Je suis awkward socialement. Toutes les fois que j'allais dans des parties, j'avais toujours un calepin. C'était ma façon de gérer mon anxiété sociale. J'avais besoin de sentir mon intériorité entourée de plein d'humains. Ça me reconnectait à moi-même. » Fin de citation, partage-t-elle. La poétesse a été en lice pour le prix de poésie Radio-Canada en 2022. La version qui n'intéresse personne est son premier roman publié, inspiré de sa vie sur le territoire entre 2012 et 2020. Citation: j'ai commencé à l'écrire en mai 2020. Il y a 2 ans, je suis arrivée au Quartanier avec un recueil de poésie sur le Yukon. Ils trouvaient que c'était hyper narratif et voulaient avoir une version en prose. Je suis revenue avec un manuscrit de 300 pages. Fin de citation, explique Emmanuel Pierrot. La sortie d'un premier roman, c'est, citation, accepter que tout le monde va pouvoir lire ton cœur, donner une opinion. Fin de citation, ajoute-t-elle. Plongée dans la communauté de punk de Dawson. Les premières pages amènent rapidement vers l'immersion dans la communauté de vagabonds de Dawson, passant des concerts au Hobo Mansion, de l'autre côté du fleuve, aux discussions de comptoir du Pit, lieu de rencontre privilégié des Dawsonites au cœur de l'hiver, aux jams de musique improvisée dans des squats et le long du fleuve, aux pérégrinations vers le festival de Keno. Les protagonistes sont crus et authentiques, l'alcool, le nihilisme, la dépression et la drogue en toile de fond. Citation: j'adore le style surréaliste, il y en a un peu dans mon roman, lié à la prise de psychotropes. Fin de citation, s'amuse l'autrice. Emmanuel Pierrot a dû faire le choix entre autobiographie et fiction pour partager ses mésaventures yukonaises. Citation : Ça se passe vraiment comme en 2020 à l'arrivée de la pandémie. J'ai fusionné des personnages, coupé des passages, changé le plus d'affaires possible pour que ce soit des protagonistes qui m'appartiennent, une vraie fiction. Dans la vie, l'humain est vraiment complexe, je ne voulais pas réduire les personnes à une situation. Fin de citation, partage-t-elle. De l'amour du territoire à la désillusion. Les qualités de poétesse de l'autrice se retrouvent dans sa façon d'écrire ses histoires d'amitié passionnelle, son amour maternel pour le chien-loup qu'elle élève, ses aventures sexuelles, les dialogues où les personnages refont le monde ou son amour pour les espèces sauvages du Yukon. On lit ainsi, page 275, citation, « C'est là qu'elles me sont apparues, les hosties d'aurore boréale du calice. Des langues rouges vins qui léchaient le cosmos, des océans roses pastels et leur miroitement vert et mauve phosphorescent. Je n'ai pas pleuré. J'aurais pu. Si la beauté du monde avait suffi à compenser la connerie humaine, j'aurais pleuré de grâce. Mais la beauté ne sert à rien. » Fin de citation. Sous la fiction, Emmanuel Pierrot a voulu transmettre un message, un cri du cœur, sa version de l'histoire. Petit à petit, la violence, le silence et la cruauté prennent de l'ampleur. Les on-dits deviennent vérité. La victime imparfaite est mise sur le banc des accusés. La communauté laisse le personnage principal, Sacha, esselé, isolé. Elle touche par sa naïveté et son amour de l'autre, elle parle avec son cœur. Citation : Quand elle tombe en amour avec les humains, elle veut que ça soit éternel. Fin de citation, explique l'autrice. Le style d'écriture respire l'authenticité, le parler vrai. Citation : J'ai beaucoup d'inspiration chez les auteurs masculins des années 1960, comme Charles Bukowski. Chez lui, il n'y a pas de morale, de gens bien ou méchants, beaucoup d'humour. Je voulais faire quelque chose comme ça. Les gens font de leur mieux, les gens deviennent attachants dans leur humanité. Ils n'essaient pas de bien paraître. Fin de citation. Un avenir prometteur pour l'autrice. La version qui n'intéresse personne, captivant malgré sa violence inouïe, touche à toutes les émotions. On y pleure, on y enrage, on y rit. On s'amuse et se désabuse. Citation : J'ai parfois réduit mon degré de réalisme parce que la réalité me semblait insensée. J'ai préféré gommer, censurer par pudeur. Ma maison d'édition m'a poussée à dire les choses au complet. Fin de citation, livre-t-elle. Citation : J'adore écrire en tant que femme, ça amène tellement de nuances. Je trouvais ça intéressant de montrer le double standard dans une communauté qui se veut antifasciste. On a de la misogynie sans le savoir. Fin de citation. Quand elle était Dawsonite, Emmanuel Pierrot avait déjà écrit un roman non publié. Elle travaille sur un autre roman qu'elle écrit depuis une quinzaine d'années. Citation : J'ai écrit toute ma vie. J'utilise beaucoup de matériel d'autofiction. Aujourd'hui, j'essaie d'éviter les drames, ma vie est plus plate et stable, je dois me détacher de l'autofiction pour trouver l'inspiration. Le Yukon me manque tous les jours. Je crée des impressions chez les gens avec ma prose, mais c'est la poésie qui me fait du bien. Fin de citation, partage-t-elle. Avec le soutien d'une maison d'édition, ce roman pourrait trouver son lectorat. Citation : Dans la version qui n'intéresse personne, j'aurais voulu transmettre plus de messages engageants. J'ai hâte de voir comment la communauté va le recevoir. C'est rare qu'on se fasse représenter. Fin de citation, conclut-elle. C'était « La version qui n'intéresse personne » d'Emmanuel Pierrot, un texte d'Agnès Vigé, paru le 14 septembre 2023 dans l'Aurore boréale du Yukon.
La justice débarque en classe, un texte de Louis-Samuel Perron, paru le 27 avril 2024 dans la presse. L'éducation au système de justice est un grand absent des programmes scolaires québécois. Une faille que des procureurs de la Couronne tentent de colmater dans les classes de cinquième année du Québec. Du consentement sexuel aux gangs de rue, l'objectif du projet « La cour d'école » est ambitieux. Former la génération de demain. « Veux-tu une crème glacée ?» lance Marie-Laurence. Son amie hésite. « Goûte-y, je l'ai déjà payée, » poursuit-elle. L'amie semble accepter à contre-cœur. Marie-Laurence se tourne vers la classe de cinquième année. « Ça, est-ce que c'est un consentement ?» Elle a dit oui. « Je ne l'ai pas forcé, » demande-t-elle aux élèves. Les mains se lèvent d'un coup et les réponses fusent dans la classe de Madame Amélie. « Tu as insisté, » lui reproche une jeune fille. Elle s'est sentie obligée de manger de la crème glacée alors qu'elle ne voulait pas, renchérit sa voisine de bureau. On a fait l'exemple avec la crème glacée, mais quand on parle de gestes de nature intime, ou de toucher, de bisous, ou de se chatouiller, c'est le même principe, explique Marie-Laurence. Vouloir ou non une crème glacée pour illustrer le consentement sexuel, c'est par de telles mises en scène que maître Marie-Laurence Hébert-Trudeau, coordonnatrice du projet La Cour d'école, aborde ce sujet délicat avec des enfants de 10 et 11 ans. Il y a juste vous qui pouvez décider ce que vous faites avec votre corps. Personne d'autre ne peut vous dire quoi faire. On parle de gestes de proximité, de bisous, de câlins, ce genre de choses-là, conclut la procureure de la Couronne. Ce jour-là, à l'École internationale du Vieux-Longueuil, c'est la 12e semaine du programme La Cour d'école. Maître Hébert Trudeau et sa collègue Maître Naomi Côté-Laporte, toutes deux procureures aux poursuites criminelles et pénales à Longueuil, échangent avec les enfants pendant une heure. Peu connu du public, le projet La Cour d'école est implanté au Québec depuis 8 ans. Dans la dernière année, 172 procureurs ont présenté des formations dans 50 écoles du Québec au bénéfice de 1594 élèves. La popularité du projet est telle que le directeur des poursuites criminelles et pénales, DPCP, doit refuser des écoles, faute de procureurs disponibles. D'octobre à avril, pendant 16 semaines, les procureurs démystifient le système de justice pour adolescents et sensibilisent les enfants à prendre de bonnes décisions. Ils leur parlent d'intimidation, de gangs de rue, de stéréotypes, de résolution de conflits, etc. Le programme se conclut par un procès simulé dans une vraie salle d'audience d'un palais de justice. En cinquième année, ils sont assez âgés pour comprendre des concepts somme toute complexes, mais ils ont toujours une perspective positive de l'autorité et des intervenants du système de justice, nous dit maître Marie-Laurence Hébert-Trudeau. Ne jamais se sentir obligé, même avec grand-maman. Les élèves de Madame Amélie écoutent attentivement. Ils sont nombreux à répondre aux questions des deux procureurs. Le ton est convivial, malgré le sérieux des sujets. Les procureurs évitent les termes trop juridiques, sans infantiliser les jeunes. À la frontière de l'enfance et de l'adolescence, les élèves de Madame Amélie sont allumés. « Qu'est-ce que le consentement ?» leur demande Marie-Laurence. « On doit demander avant de toucher la personne, » répond une élève. Sur les réseaux sociaux, tu ne peux publier une photo sans la permission de la personne, lâche une jeune fille. « Est-ce que ça peut être un acte criminel ?» relance Marie-Laurence. Une question accueillie par un « oui » unanime des enfants. « Ça vous est déjà arrivé que votre père ou votre mère vous dise « va faire un câlin à grand-papa » ou « donne un bisou à ma reine » soulève Marie-Laurence. « Oui, » répondent les jeunes. « Aimez-vous toujours ça ?»« Non, » s'exclament les élèves. On est une nouvelle génération. On va apprendre de nouvelles choses à nos enfants et on va changer les façons de faire les choses sur plein de sujets. On fait les choses différemment. C'est toujours correct de s'écouter, de respecter ses limites, ses frontières, peu importe ce que quelqu'un d'autre vous dit, insiste la procureure Marie-Laurence Hébert-Trudeau. Le message est clair. Il ne faut pas se sentir obligé de faire quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, même un bisou à grand-maman. Vous avez le droit d'avoir des limites, insiste la procureure, même en contexte familial. Ça ne veut pas dire d'être impoli ou d'envoyer promener les gens. Vous avez quand même l'obligation de dire « Bonjour grand-maman, merci de nous recevoir, merci pour le cadeau, il est bon ton ragoût de boulettes », nuance la procureure alors qu'un petit farceur lance une blague de boulettes. Changer les mentalités n'est pas une tâche facile. Mais il est important d'apprendre tôt aux jeunes à mettre leurs limites et à résister à la pression des pères, selon Maître Hébert Trudeau. Il reste un gros travail de prévention. On constate en 2024 un nombre très élevé de dossiers d'agression sexuelle, affirme la procureure en entrevue. Dans la leçon sur les gangs de rue, les enfants doivent réfléchir aux motivations des jeunes à rejoindre un tel groupe pendant une mise en scène. On ne veut pas juste leur dire « Ne fais pas ça, ce n'est pas bien ». On veut qu'ils comprennent, souligne Maître Marie-Laurence Hébert-Trudeau. La formation sur les dangers des réseaux sociaux résonne particulièrement alors que des jeunes sont harcelés en ligne 24 heures sur 24. Les cas de leurre sexuel sont aussi fréquents. Irais-tu seul dans un parc de 8 milliards de personnes sans tes parents? Non. Alors sache comment te protéger, illustre-t-elle aux enfants. Selon Maître Hébert Trudeau, il n'y a pas de doute que le projet La Cour d'école contribue à diminuer la criminalité. Je suis convaincue que chaque jeune, individuellement, bénéficie du projet. Ça a un impact sur son développement et son cheminement futur, conclut-elle. C'était « La justice débarque en classe », un texte de Louis-Samuel Perron, paru le 27 avril 2024 dans la presse.